Vous écoutez les podcasts de la team Géoloc. Dans cette série de podcasts, vous allez découvrir le projet InMob, la cartographie du handicap par mesure inertielle pour faciliter la mobilité. Aujourd'hui, nous vous diffusons la première partie de la restitution du projet InMob. L'objectif de ces conférences est de restituer aux participants pourquoi ils sont dans le projet et qu'est-ce que la team Géoloc a été capable de faire au bout d'un an avec les données collectées. Dans cette première partie, Valérie Renaudin, directrice du laboratoire Géoloc, et Damien Brosseau, directeur général d'Okinéa Digital, vont vous présenter la genèse du projet InMob.
On attaque avec la genèse du projet qui nous regroupe aujourd'hui.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la mission du laboratoire Géoloc de l'Université Gustave Eiffel ?
Le laboratoire Géoloc s'intéresse à la géolocalisation pour améliorer la mobilité des personnes et des biens. Depuis plusieurs années, nous produisons de nouvelles manières de calculer la trace d'objets qui bougent. On appelle cela du positionnement dynamique, afin d'accompagner l'essor des nouvelles pratiques de mobilité et les nouveaux services basés sur la géolocalisation des porteurs. Traditionnellement, nous nous intéressons aux éléments du transport, type voiture, train, et même d'éléments plus importants, encore destinés au transport aérien ou maritime. Avec l'essor des objets connectés, nous nous sommes intéressés à Monsieur Tout-le-Monde, dans le cadre de ses déplacements, pour améliorer sa mobilité au quotidien.
Quels sont les défis auxquels vous vous attaquez ?
Le défi principal auquel on s'attaque aujourd'hui est de fournir une solution de géolocalisation précise et continue à un voyageur sur toute la chaîne multimodale, quelle que soit sa spécificité de déplacement, qu'il soit bien portant ou souffrant d'une déficience à la mobilité. On s'intéresse à ce défi-là, et vraiment c'en est un. Tout d'abord parce que les objets qui sont utilisés pour faire de la géolocalisation n'ont pas été conçus pour cela. Le grand public attend de ces objets une capacité à faire de la géolocalisation partout, dedans, dehors, dans l'ensemble de ses déplacements. Et ce n'est pas du tout ce qui se passait avant avec des navigateurs qui, eux, étaient développés spécifiquement pour certains moyens de transport, dont par exemple les voitures. Les attentes aujourd'hui, elles sont énormes autour des objets connectés parce que ces derniers comportent des capteurs, mais ces capteurs sont de très mauvaise qualité. Mais malgré cette mauvaise qualité, on attend que l'objet soit suffisamment intelligent pour comprendre qui je suis dans mes déplacements et me fournir la meilleure trace possible et finalement le meilleur guidage.
Pourquoi nous nous intéressons à ces défis ?
C'est simplement parce que c'est presque devenu indu. On considère aujourd'hui que c'est quelque chose de disponible partout. On entend beaucoup parler d'objets connectés, de la puissance des smartphones ou encore de l'intelligence artificielle. Pour le grand public, les médias laissent entendre que la géolocalisation est une panacée. Alors que dans la pratique, la précision obtenue est bien moins grande que celle que l'on imagine. Je pense qu'ici, vous en avez tous déjà fait l'expérience à de multiples reprises. La conséquence, c'est que beaucoup de services en pâtissent, dont les vôtres, ceux du guidage dans le cas d'une déficience visuelle. On parle ici notamment de guidage d'accompagnement à la mobilité des personnes en situation de handicap, mais aussi de services d'urgence. Faut savoir aujourd'hui qu'on a une hausse de 74% des catastrophes naturelles. Aujourd'hui, on est un jour de forte chaleur. Ça se traduit aussi par des feux. Et par exemple, une des problématiques qu'on a, c'est d'assurer la sécurité de pompiers en intervention dans des environnements qui sont complexes. Et on va retrouver les mêmes problématiques de signal qui ne se propage pas correctement, de difficultés parce qu'on a des infrastructures qui ne peuvent pas être équipées, qui se détruisent. Donc on va avoir aussi, pour tout ce qui est service d'urgence, des problématiques qui sont assez similaires à celles qu'on va retrouver dans le cadre de ce projet. Donc on s'intéresse à ces défis au sens large.
Quel lien faites-vous entre technologie et mobilité ? Et quels seront les gains concrets pour les citoyens ?
Les technologies sont aujourd'hui un facilitateur de mobilité. On voit à quel point l'utilisation de technologies bouleverse nos façons de nous déplacer. Personnellement, j'ai habité au Canada, sur plusieurs continents, et je vois à quel point ces outils me sont devenus indispensables. Je ne saurais certainement plus me passer d'une solution de géolocalisation dans le cadre de mes transports. C'est devenu un outil unique qui fait tout et qui améliore ma mobilité. Après, ça m'aide aussi à gérer mes stress. Impatiente, assise derrière mon volant, je déteste les bouchons. Et je suis particulièrement contente de pouvoir utiliser des applications telles que Waze, qui vont utiliser la localisation et la combiner à de l'interprétation de trafic, de traces, de types de routes, pour être capable finalement de m'offrir les meilleurs chemins. Soit dit en passant, aujourd'hui, on voit pas mal d'actions citoyennes qui cherchent à modifier les bases de données pour que les rues proposées par Waze ne soient pas visitées. Donc c'est efficace et en même temps, ben, des fois, ça ne marche pas, quoi. Aujourd'hui, avec ces objets connectés, on est capable de s'adresser à tout un chacun dans sa spécificité. C'est un peu le Saint Graal, ce truc-là. C'est l'avantage des smartphones, mais aussi de leur combinaison avec des méthodes dites d'intelligence artificielle. On en reparlera ce matin de l'intelligence artificielle, on expliquera mieux ce que c'est. Globalement, ce qu'on peut nous promettre de l'intelligence artificielle demain, c'est peut-être d'être capable de comprendre qui nous sommes dans la mobilité et de fournir des solutions qui sont adaptées à notre différence. Autrement dit, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'une personne qui souffre d'une déficience ou d'un handicap puisse espérer demain que celui-ci devienne non pas un handicap, mais une richesse descriptive de son déplacement. Autrement dit, que l'intelligence artificielle soit capable de transformer cette façon de se déplacer en une géolocalisation plus précise sur la carte. C'est tout l'enjeu de ce projet. Mais je me rends compte aujourd'hui à quel point on est capable d'intégrer les différences, qu'elles soient personnelles ou culturelles, au travers des solutions que nous pouvons développer. C'est à mon avis un gros, gros changement, et c'est ce changement-là qu'on a dans le cadre de ce projet, où on cherche justement à non pas partir d'une technologie qu'on va introduire sur le marché en disant « voyons voir à qui on peut bien l'appliquer », mais plutôt à se dire « essayons de comprendre la spécificité du déplacement » et voyant comment on peut l'utiliser pour transformer nos technologies de géolocalisation.
La mobilité inclusive, notamment pour les personnes en situation de handicap, semble être une utopie, ou au contraire une réalité à court terme.
À mon avis, c'est une réalité à moyen terme, et soyons fous, peut-être à court terme. La mobilité inclusive, Damien en reparlera tout à l'heure, en fait, c'est cette capacité à adresser des solutions ou à inventer des solutions pour tous, quelle que soit la capacité de déplacement des personnes. Encore une fois, les solutions couramment déployées dans les téléphones portables aujourd'hui ne prennent pas en compte les spécificités du déplacement ou encore les handicaps au déplacement. À titre personnel, ça fait 15 ans que je travaille sur la navigation pédestre et je fais partie de ces gens qui ont développé des solutions universelles qui sont dans vos téléphones portables, mais qui ont atteint un plafond de verre en termes de performance. Et la seule façon de le casser est de regarder les spécificités du développement ou du déplacement à titre individuel. Donc aujourd'hui, l'avancée sur les capteurs, l'avancée sur les technologies de calcul, la compréhension de qui nous sommes, nous permettent simplement d'imaginer que demain, nous serons capables de fournir des solutions plus adaptées et donc d'améliorer la notion de mobilité inclusive. La capacité aussi à fournir des solutions qui ne dépendent pas d'infrastructures, et c'est aussi sur ce point-là qu'on s'est retrouvés avec Okinéa. C'est important parce que le déploiement, du coup, ne dépend pas d'une infrastructure équipée et il permet d'envisager de couvrir des territoires qui sont plus vastes, donc de ne pas réserver une solution à un centre urbain suréquipé, et d'ouvrir aussi la mobilité ou les technologies de mobilité à des personnes qui n'iraient pas vers ces solutions s'il s'agissait de payer des abonnements très chers ou de souscrire à la dernière technologie.
Comment s'est fait la rencontre entre Okinéa Digital et Géoloc ?
Alors, ça a été une rencontre relativement simple, puisque face à un problème qu'on rencontrait chez Okinéa, j'ai décidé de faire quelques recherches sur Internet sur quels pourraient être les spécialistes français, qu'on avait envie de travailler avec une approche qu'on va qualifier de souveraine, en tout cas française, pour déjà faciliter la communication, faciliter la rencontre, parce qu'on croit beaucoup dans les rencontres. Et donc, en cherchant un peu profondément et en ne se limitant pas à juste des fournisseurs, mais bien des laboratoires de recherche, pas des fournisseurs de solutions, j'ai découvert à travers l'IPIN la compétence de l'équipe de Valérie, et particulièrement Valérie, qui incarne parfaitement Géoloc. Et donc, en fait, j'ai pris mon téléphone et j'ai dit il faut qu'on se rencontre. Et donc, j'ai aussi écrit un mail qui accompagnait ça, parce qu'à l'époque, Valérie était déjà très occupée. Sur une demi-heure de téléphone qui était prévu, on est resté, je pense, une heure et demie à échanger nos points de vue. Point de vue qui, chez nous, était un constat issu du terrain en disant on est en limite technologique. Valérie qui avait cette intuition profonde de dire de toute façon on atteint le plafond de verre comme elle vous l'a expliqué. Et donc sur ce double constat qui vient de la spécificité des déplacements des personnes aveugles et sur un constat plutôt de pointe scientifique de Valérie qui disait on atteint un plafond de verre des technologies, en fait ce double plafond on s'est rejoint pour essayer de le casser tout simplement et de changer d'approche. Alors pourquoi déboucher sur le projet de l'APCOM et c'est quoi InMob?
Alors, déboucher sur le projet de l'APCOM, en fait, c'est devenu assez naturel de la rencontre. Les idées scientifiques, elles étaient en germe, mais en fait, une germe forte, puisque ça reposait sur, comme je vous disais, 10 à 15 ans d'expérience au niveau international sur la navigation pédestre. Mais une intuition forte. Et quand il y a eu cet échange téléphonique, donc l'IPIN, c'était une conférence qu'on a organisée, internationale qu'on a organisée à Nantes en 2018, il devenait évident qu'il fallait avancer avec Okinéa Digital. Et l'outil le plus approprié en France pour ça, c'est un outil qui s'appelle les LabCom, qui est financé par l'Agence nationale de la recherche et qui met en relation un industriel avec un académique sur un projet plutôt long, puisqu'on est sur 5 années, et dans l'objectif de faire des avancées fondamentales d'un point de vue science, mais aussi s'assurer qu'on a derrière quelqu'un qui va reprendre les travaux et qui va aller jusqu'au produit pour le transformer en une réalité économique et commerciale. Et donc, la carte d'identité de ce projet, dont le petit nom est InMob, alors son nom long signifie cartographie du handicap par mesure inertielle pour faciliter la mobilité. Donc après, on pique des lettres un peu partout pour faire un joli acronyme, ça donne InMob. Et les deux partenaires de ce projet donc, sont Géoloc de l'Université Gustave Eiffel et Okinéa Digital. On travaille sur deux lieux principaux, Nantes et Lyon, de par nos emplacements géographiques respectifs. Le projet est officiellement né en termes de T0 le 1er février 2021, mais il était en gestation depuis quand même pas mal de temps avant. Sa date d'expiration, c'est au 31 août 2025, mais on est persuadé que ça débouchera sur des suites. On est à un budget d'environ 1,5 million d'euros et ça entraîne actuellement 19 personnes. Donc on est à une vingtaine de personnes et là, c'est en ne vous incluant pas, alors qu'en fait, on devrait être très honnête parce que quelque part, votre participation correspond à vous avoir comme partenaire du projet. Donc finalement, on pourrait presque vous rajouter dans cet effectif d'équipe. Et quel est votre rôle dans le projet, Damien ?
Alors, vous le savez peut-être, mais quand un laboratoire travaille avec une approche scientifique, il n'y a pas d'immédiateté sur ce qu'on appelle le transfert technologique. On travaille sur des échelles de maturité technologique. Vous vous doutez bien qu'on n'a pas, entre le temps où on a commencé à géolocaliser quelqu'un sur un globe avec une constellation de satellites et son expansion dans nos smartphones, il y a eu quelques années de transfert et d'utilisation et de saturation, etc. Et bien notre rôle, nous, chez Okinéa Digital, ça va être de prendre l'approche théorique faite par le laboratoire, théorique et pratique, j'entends, avec ce qu'on appelle un portage des algorithmes qui sont développés au sein du laboratoire pour les mettre dans un smartphone. Et en fait, ça n'est pas, vous le savez, un simple copier-coller, puisqu'on a des capteurs qui sont nettement moins performants, malgré, effectivement, comme tu le disais, Valérie, la vision de l'omnipotence d'un smartphone, la puissance d'un smartphone, en fait, aujourd'hui, on est quand même limité par un certain nombre de, de freins qui sont dus principalement à des mesures d'économie sur des capteurs qui sont massivement répandus dans les smartphones. Autrement dit, pour faire un smartphone à 1000 euros, vous n'avez pas, enfin, il n'y a pas de corrélation directe entre un smartphone à 1000 euros et la qualité des capteurs qui sont dedans, puisque les économies d'échelle amènent des choix industriels qui sont parfois au détriment de la précision et de la qualité des capteurs. Et ça, on le découvre au quotidien avec l'équipe de Valérie.
Et donc aussi dans les rôles en fait attendus dans le cadre du projet, aujourd'hui dans le cadre d'intelligence artificielle, on a besoin d'observer souvent, quand j'en parle dans mon équipe, je dis qu'on est un peu comme des petits-enfants, c'est-à-dire qu'on est dans l'observation par des données de phénomènes qui se passent, et notre objectif va être après de les transformer dans des modélisations mathématiques et ensuite de les exploiter jusqu'à un calcul de traces qui est le plus précis possible. Sauf que pour pouvoir observer, il faut collecter des données. Et vu que dans le cadre de ce projet, on part du principe qu'on doit travailler avec l'individu pour remonter jusqu'au modèle mathématique en observation, si on n'a pas la participation de vous dans le cadre du projet, on n'est pas capable d'avancer. Et un laboratoire comme celui que je dirige n'a absolument pas pignon sur rue le jour où il décide de s'engager dans un projet sur le handicap. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas forcément simple de rentrer dans votre milieu, qui est celui du handicap, et s'associer avec Okinéa Digital, c'est aussi bénéficier de combien d'années d'expérience sur le terrain ?
30 ans.
30 ans ?
30 ans d'existence de l'entreprise au départ. Et je dois quand même te reconnaître, et à l'équipe particulièrement de Géoloc, toute l'énergie que vous avez mise dans votre acculturation au handicap visuel particulièrement et au lien avec les associations, ce qui n'est pas toujours évident dans le temps du laboratoire. C'est énormément de temps investi et des résultats qui sont quand même assez étonnants. Donc oui, on a l'expérience, nous, d'aller rassembler un panel à peu près partout en France. Nantes, on n'avait pas énormément d'attaches et vous avez su créer ces attaches-là. Donc bravo pour ce travail en tout cas.
Merci. Donc nous, on apprend plus vite avec eux et donc on bénéficie aussi de ce lien de confiance et cette histoire qui est créée sur le territoire national. Et ce qu'on a dans cette relation aujourd'hui, c'est une vraie confiance entre nos deux entités, avec un partage de connaissances fort, un partage aussi de résultats, d'état de l'art, d'enquête. Et puis, alors, il y a un truc que moi, j'adore, c'est que grâce à eux, je peux aller tester sur le terrain des dernières technologies. Donc, moi, en tant que laboratoire, je ne peux pas me permettre d'aller déployer des solutions commerciales partout. C'est juste pas possible. Et donc, parfois, ils m'offrent la possibilité d'aller, parfois même souvent, d'aller sur leur terrain et puis de jouer comme un enfant avec des outils et des technologies. Et je m'amuse, soyons clairs, je m'amuse à casser les systèmes. Et ensuite, je leur explique qu'est-ce que j'ai cassé. Et parfois, je les déprime, puisqu'ils pensaient avoir trouvé le Saint Graal et moi je le casse. Donc heureusement, la dernière fois, la batterie du téléphone est tombée en rade au bout d'à peu près 1h30. Et donc tout le monde était soulagé, mon équipe, parce qu'ils n'en pouvaient plus d'être dans le métro à Lyon. Et je pense aussi du côté d'Okinéa, parce que j'arrêtais de casser leur système. Voilà, donc c'est aussi ça qui, moi, me plaît aujourd'hui, la relation que j'ai avec vous. Mais dans ce partenariat avec Okinéa Digital que j'explique aujourd'hui, il y a aussi ça, c'est-à-dire cette capacité à aller jouer avec la vraie vie, en fait, de manière à ce qu'on puisse l'intégrer. Et pour rajouter juste un truc sur ça, Damien introduisait les problématiques de téléphone portable. Dans la dernière partie ce matin, on parlera des premiers résultats. On a par exemple un truc aujourd'hui qui est vraiment pénible, c'est que des promesses de cadence d'acquisition de données, donc la rapidité à laquelle on peut accéder à de la donnée sur un téléphone portable, eh bien on découvre que dans les dernières versions des téléphones portables, c'est bridé. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on est en train de faire, en fonction des dernières mises à jour du téléphone, en fonction de comment on accède à la donnée, eh bien on est bridé et la promesse qui est documentée partout, dans la pratique, elle est fausse.
Pour l'anecdote, quand même, j'ai vu Valérie mettre des bracelets connectés d'un entrepreneur qui nous rendait visite, qui s'appelle Envibe, et qui a une technologie qui marche plutôt bien, qui est plutôt appréciée, on va dire, par une partie des utilisateurs malvoyants et aveugles. Et donc, l'entrepreneur qui était disponible, ne savais pas qui était Valérie. Et donc Valérie, effectivement, a tordu la technologie pour montrer que, bah, en fait, il y avait un certain nombre de biais qui étaient induits par l'utilisation de ce système-là. Et donc, en fait, l'entrepreneur est reparti avec un test de notre équipe et l'avis de Valérie sur pourquoi son approche était intéressante, mais pas suffisante. Et que de toute façon, le travail qu'on mène au sein d'InMob particulièrement pourra lui servir à terme sur cette approche-là.
C'est ça, parce que ce brassier vibrant doit annoncer des changements de direction à une distance de, je ne sais plus si c'est 5 mètres ou quelque chose comme ça. Sauf que ben là, on commence à être dans l'imprécision de la géolocalisation aujourd'hui. Donc ça devenait assez dangereux. Et je me suis vraiment imposée dans cet essai. Mmh. Donc la conséquence, c'est que d'habitude, il conservait un bracelet à son poignet pendant la démonstration. Et il avait donc un retour direct qui lui permettait de commenter et donc de nuancer les imprécisions. Et là, il avait perdu sa solution témoin, en fait. Donc voilà, ça l'avait un petit peu déstabilisé. Dernière question ce matin.
Qu'en attendez-vous ?
Alors, nous, ce qu'on en attend, en fait, au sein de Géologue, enfin, moi, j'en attends énormément. Toute l'équipe est mobilisée sur le projet. C'est un des plus gros projets qu'on a eu au laboratoire depuis longtemps. Ça fait vraiment longtemps que j'avais ces idées en tête. Les premières soumissions de projets sur la thématique, je les ai faites en 2018. Donc on a mis quand même de 2018 à 2021. Il faut savoir que dans la recherche, c'est pas simple de décrocher des fonds. Donc c'est 2018 les premières soumissions de projets jusqu'en 2021 pour arriver à être financé sur la thématique. Donc on voit que ça met du temps. Et ça veut dire qu'en fait, moi, je suis dans les starting blocks depuis encore avant. Parce que quand on fait un dépôt de projet en 2018, on l'a déjà dans la tête en 2016 ou en 2017. Donc moi, j'en attends énormément parce que je souhaite voir si les intuitions, les idées qu'on a vont être fonctionnelles ou pas dans le cadre de ce projet. Et puis j'en attends aussi d'autres choses, c'est qu'aujourd'hui, on est tous des fois en perte de quête de sens, même sur nos activités de recherche. Et donc d'être sur un projet où on n'est pas forcément en train de développer une solution de géolocalisation pour influencer du comportement marketing en magasin, parce que c'est quand même une des choses pour lesquelles je suis le plus demandée, on dit non souvent, là on peut se permettre de dire non parce qu'on a un projet qui nous occupe bien, ça fait du bien. Ça fait du bien à titre individuel, en tant qu'humain, mais ça fait aussi du bien à l'ensemble de l'équipe d'être sur ce projet. Voilà pour Géologue.
Merci Valérie. Pour Okinéa, c'est relativement simple. Hein, c'est que on n'a pas de croyance dans un miracle technologique qui viendrait résoudre tous les problèmes. Ce qu'on sait, c'est que ce qu'on apprécie particulièrement chez Géologue, c'est la collaboration, donc les essais, les erreurs. Parce qu'en fait, on apprend beaucoup plus en faisant des erreurs qu'en faisant des réussites. Et donc, on se trompe beaucoup, chez nous y compris, parce qu'on fait beaucoup de tests utilisateurs. Et donc, ce qu'on attend, c'est évidemment une solution qui serait massive. Parce que l'intérêt, il est lequel aujourd'hui, nous, on couvre des bâtiments. Et j'ai envie de dire, et alors ? Est-ce qu'on résolvera la problématique de la mobilité inclusive ? Est-ce que quand on a couvert, comme on l'a fait, le métro de Marseille, on est satisfait et on se dit, super, une victoire ? La victoire, elle sera là quand on aura réussi à amener, comme ça s'est passé dans un certain nombre de tests, des personnes à bouger en autonomie et des personnes qui ont des besoins spécifiques. Pas uniquement des personnes aveugles et malvoyantes, mais finalement, sommes-nous tous des personnes à besoins spécifiques ? Moi, je le crois. Je crois qu'on a tous des besoins spécifiques qui sont d'ailleurs variables dans le temps, au sein d'une journée, d'une semaine, d'une année. Et donc, en fait, le travail qu'on fait là a une portée beaucoup plus large alors j'ai envie de dire juste, entre guillemets, guider des personnes aveugles au sein d'une infrastructure, mais c'est bien au sein de toute la ville, comme tu le disais, et de ne pas le limiter aux faits urbains. Oui, on est un pays particulièrement avec une concentration de la population majoritairement urbaine, mais on ne doit pas délaisser non plus le service dans nos campagnes, et donc avoir un service massif, c'est bien ça l'objectif, et ça pourra se faire que dès l'instant où on aura une technologie qui ne nécessite pas particulièrement d'installation, mais plutôt en tout cas quelque chose qu'on a tous sur nous, c'est-à-dire un smartphone, et puis c'est parti.
Sachant que, pour compléter, on est quand même dans une situation où la proportion des personnes déficientes visuelles est en train d'augmenter. On annonce des triplements dans des échelles de décennies, pour des raisons démographiques, pour des raisons de vieillissement de la population. mais aussi pour des raisons d'utilisation du digital en masse, qui ont des impacts aujourd'hui connus, reconnus auprès des populations plus jeunes. Et donc finalement, ce projet-là, certes, on est avec vous, mais on aimerait et on est bien conscient qu'il peut avoir des répercussions beaucoup plus importantes dans le contexte d'évolution de notre société actuelle. Voilà. On arrive là à la fin de No Speech sur cette partie-là. Donc on peut passer à des questions si vous avez déjà sur ce premier bout d'explication qu'on a fait qui était sur la genèse en fait, du projet.
Non, j'aurais souhaité simplement que Okinéa Digital nous dise en tant que fabricant qu'est-ce que vous fabriquez, quelles sont vos activités en définitive, en dehors de l'activité géologue qu'on vient de découvrir.
Tout à fait, je vais y venir juste après, donc je me permettrai de vous répondre de manière totalement illustrée, mais bien vu, effectivement.
Ce sera le deuxième atelier ce matin. Non.
Merci. Quelle est la difficulté qu'on peut éventuellement rencontrer en multipliant ces champs magnétiques, puisque ce sont des champs magnétiques en définitive, qui vont se multiplier avec ces activités croisées de l'activité des portables en définitive. Est-ce qu'il y a un risque quelconque sur la santé, tout simplement.
Alors, je ne suis pas une spécialiste de l'impact des ondes sur la santé. J'ai mes expériences personnelles. Une des expériences que j'ai vécues était avec mes enfants au Canada, où ils faisaient grandir des plantes à distance plus ou moins éloignée de bornes en fait, qui émettent des ondes. Et ils observaient l'impact sur la croissance des végétaux, et il y en a un. Donc ça, c'est des choses que j'ai déjà vues, mais je ne saurais pas vous répondre parce que je ne suis pas une spécialiste de l'impact des ondes sur la santé.
Je me permets de rebondir, Valérie, puisqu'en fait, dans l'approche qu'on a sur InMob, en fait, par essence, on est sur quand même une réduction d'ondes.
Oui, on n'en a pas, en fait.
Et effectivement, aujourd'hui, pour géolocaliser une personne, on est obligé de se fier soit à des... Enfin, tu es plus à même à expliquer que moi, mais ouais, soit à des balises Bluetooth, par exemple dans un métro, ce qui émet du coup des ondes. Alors que l'approche, le changement de qu'on est en train d'opérer, tu peux l'expliquer.
Ouais. Hein. Bah, oui, effectivement, c'est le volet que j'étais trop scolaire sur la réponse. Aujourd'hui, ce qui est fonctionnel, c'est de s'accrocher à des balises dans l'infrastructure. Donc c'est un déploiement de balises de type Wi-Fi, Bluetooth, RFID, et ce sont toutes des balises émettrices. Pour répondre aux besoins de précision, et c'est ce que vit Okinéa Digital, et moi ça me fait toujours rigoler, mais la réponse apportée, c'est une densification du nombre de balises. Donc souvent je le compare en explication à un passage à la caisse. Lorsque vous passez à la caisse, pour que votre aliment soit enregistré en termes de prix, vous avez un code barre, et quand votre aliment passe devant le lecteur, le prix est enregistré. Eh bien, il faut imaginer ces balises comme autant de lecteurs de code barre. Et vous êtes un code barre ambulant. Plus je vais déployer de balises dans mon infrastructure, plus ma précision va être grande. Alors, bien sûr, on va faire ça de façon un peu plus intelligente. On va faire de la modélisation, de la propagation du canal. On va essayer de voir la puissance, la réduction de la puissance en fonction de la distance. On va essayer de voir plusieurs balises. Bon, bref, d'un point de vue scientifique, il y a beaucoup de choses qui sont faites, des méthodes de fingerprinting, etc. Mais moi, je suis contre ce truc depuis le début de mes travaux. Donc, depuis les années 2004-2005, où je me suis intéressée à la navigation PDS, j'ai choisi de ne pas le faire. Alors, naturellement, il y a des problèmes de performance. Mais ma première motivation, ce n'était pas celle-là. C'était celle de pouvoir bénéficier d'une technologie sans laisser de traces. Parce que finalement, toutes ces balises sont des balises communicantes. À partir du moment où ce sont des balises communicantes, vous êtes en connexion avec une infrastructure où vous allez laisser des traces de vos passages. Or, moi, travaillant dans la localisation depuis pas mal d'années, je ne souhaite pas laisser de traces. Donc, à titre, par exemple, individuel, souvent on me dit « Mais pourquoi tu n'actives pas la géolocalisation sur le téléphone portable de tes enfants ?» Et je dis toujours « Il en est hors de question. » Donc, c'est, on va dire que là, on est de l'ordre d'une valeur et d'un principe personnel. Donc, depuis ce temps-là, je développe des solutions qui n'utilisent pas les systèmes radio-télécom terrestres. C'est une contrainte que j'ai imposée à notre approche. Est arrivée ensuite la RGPD, donc le règlement de protection des données privées au niveau européen. Et tout d'un coup, de l'uluberlu que j'étais, je devenais à la mode. Parce que il y avait un règlement européen qui disait que ce serait bien d'adopter un principe qui s'appelle en anglais le « privacy by design ». Donc ça veut dire le principe de protection de la vie privée dès la conception technologique. Et là, tout d'un coup, j'étais magnifique, je fais ça depuis pas mal d'années. Et dans le cadre de ce projet aujourd'hui, on continue à être dans cette approche. Ça veut dire que dans le cadre du téléphone portable, on va limiter l'utilisation à des signaux qui respectent ce concept. Donc tout ce qui va être capteur inertiel, champ magnétique, baromètres qui font des mesures de principes physiques, ça respecte ce fondamental et personne ne le questionne. Quand on parle du GPS, là, les gens se posent la question. Parce que le GPS a tellement été vulgarisé comme mot qu'il a aujourd'hui une dimension qui est beaucoup plus grande que ce qu'il est en réalité. Ça veut dire que par GPS, les gens voient l'outil, la trace, l'application, tout ce qu'il y a dans le système. Or, le GPS, si on veut le comprendre, et c'est comme ça que je l'explique en cours, je dis c'est comme un poste de radio. Lorsque vous avez votre poste radio, vous l'allumez, et quand vous l'allumez, vous allez capter un signal ambiant, et en tout d'un coup, votre poste radio va être capable de transformer cette information en une information audible. Le GPS, c'est exactement la même chose, c'est un signal ambiant. Il n'y a pas de transmission avec un satellite ou de transmission avec une infrastructure terrestre. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on peut utiliser le GPS dans le désert, par exemple, ou en mode avion. Et donc, dans le cadre de ce projet, on va, nous, aussi utiliser la partie GPS et GNSS au sens large, on reparlera de Galileo. Et donc, toutes ces technologies-là n'utilisent pas d'ondes. Elles sont passives. Ça veut dire que la solution sur laquelle on travaille, elle va, dans la pratique, avoir comme conséquence qu'on peut diminuer le nombre de balises requises dans l'infrastructure jusqu'à aller à zéro, puisque nous, ce qu'on souhaite, c'est zéro, et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et donc, globalement, ça devrait avoir pour impact, finalement, que l'infrastructure sera moins communicante et donc moins productrice d'ondes. Et notre technologie, par défaut, elle ne produit pas d'ondes, elle est passive. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur cette partie. Non ? Ben alors on peut passer... tu voulais poser une question ? Pardon ? Tu n'es pas obligé. Hein, c'est, si tu en as une que tu as envie de poser, c'est le moment. Vas-y.
En clair, si j'ai bien compris le truc, c'est que quand on met la localisation sur les GPS, enfin sur les portables, par exemple, si on veut dire... en réservant un taxi ou n'importe quoi, une livraison ou pas, si on dit au site marchand on habite tel endroit et on veut être livré à tel endroit, on peut le faire avec votre système, en gros. C'est que la géolocalisation qui est dans le téléphone portable, c'est juste pour du commercial. On n'en a pas besoin en fait dans la pratique avec votre système.
Alors, c'est pas exactement comme ça. Tu en as besoin dans tous les cas. La seule différence ici, c'est que nous, elle va être calculée de façon indépendante de tous ces aspects marketing et commerciaux. Donc après, c'est beaucoup plus facile de protéger ta vie privée parce que tu n'es pas dépendant du réseau ou de cette infrastructure commerciale pour calculer ta localisation. Mais tu en as quand même besoin parce que si tu veux te faire livrer un service, il faut qu'il y ait une information sur l'adresse de livraison. Donc, si tu donnes ton adresse à la maison, c'est aussi ta géolocalisation. On ne peut pas que ce soit indépendant. Alors, quand elles sont avec notre techno où c'est calculé de façon indépendante, on peut plus facilement les rendre indépendants. C'est-à-dire qu'en fait, on peut plus facilement anonymiser, crypter la partie qui va être communicante pour ton service après. Par contre, si tu dépends de cette partie communicante pour calculer ta localisation, tu ne peux pas la protéger. Ça fait partie de tous les problèmes qu'il y a eu aussi sur tout ce qui était tracking Covid.
Ah ouais. Moi, j'avais désactivé l'application d'anti-Covid au niveau de la géolocalisation. Mm-hmm. Donc, on ne pouvait pas me repérer, savoir si j'étais dans le coin ou pas. C'est ça, en gros
Oui. Alors, tout ce qui était géolocalisation sur anti-Covid, c'était ce qu'on appelle du tracking Bluetooth. Ouais. Donc, en fait, là, on est nouveau dans mes histoires de code-barre à la caisse, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on détecte la proximité de quelqu'un dans l'environnement qui émet un signal. Donc, c'est la même chose qu'un article qui passe en code barre à la caisse. Et le problème qu'il y a là-dessus, c'est que les signaux qui sont envoyés sont des signaux qui ne vont pas tout droit dans un environnement. En fait, c'est un peu comme des balles de ping-pong. Dans un environnement donné, le signal, il peut être réfléchi par les murs, le mobilier urbain. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de détecter la proximité de quelqu'un qui est à côté de toi, tu peux attraper la détection de la proximité d'un signal qui a rebondi dans ton environnement de quelqu'un qui est plus loin. Typiquement, les transports en commun sont les endroits où ce genre de technologie fonctionne le moins bien.
Ouais,
voilà.
Okay. Ouais, merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous êtes intéressé pour participer à une expérimentation ? Ou vous voudriez simplement nous poser une question ? N'hésitez pas à nous contacter via notre page web. Le lien est présent dans la description de cet épisode.